Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
En ce début d'année 2026, je suis très heureuse de vous présenter au nom de toute l'équipe de Radio Présence tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et à mon tour, je les présente évidemment à toute l'équipe de Radio Présence, les permanents, les salariés, les journalistes, les bénévoles aussi nombreux qui permettent à la radio de vivre et évidemment à travers les ondes de Radio Présence à tous nos auditeurs en ce jour.
Alors, ce début d'année, elle marque, comme chaque début d'année, le démarrage de quelque chose de nouveau. 2026 nous apportera sans doute son lot de surprises, de joies, de défis à relever. Et puis, c'est aussi en ce début de l'année, la clôture du jubilé de l'espérance que nous avons vécu dans toute l'Église universelle, dans le diocèse de Terre-Belourde, où nous allons clôturer le jour de l'Épiphanie cette année jubilaire. Et puis, dans d'autres diocèses, ça se fait courant janvier. Est-ce que vous pouvez nous parler des grâces qu'on a reçues pendant cette année du jubilé de l'espérance, peut-être la manière dont vous, en tant qu'évêque, vous avez expérimenté l'espérance en cette année 2025?
J'avais l'intuition, il y a un peu plus d'un an, que dans la perspective de l'année jubilaire qui s'annonçait, notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes, alors ça j'en ai l'intuition et la conviction forte depuis ma nomination, est extrêmement marquée par la présence de la Vierge Marie en de nombreux sanctuaires, y compris en des sanctuaires d'apparition authentifiés, d'autres que Lourdes, je pense à Notre-Dame de Garaison notamment. Et donc, j'ai souhaité, il y a un peu plus d'un an, que l'année jubilaire soit particulièrement marquée par des pèlerinages diocésains dans les différents sanctuaires mariaux du diocèse. Et je garderai de l'année jubilaire, pour ma part, la mémoire forte de ce qui s'est vécu pour nous autour de ces cinq rendez-vous diocésains répartis entre le mois de mai et le mois d'octobre, qui ont été vraiment des moments de grande grâce familiale, je dirais, de la famille diocésaine. Beaucoup, beaucoup de personnes présentes, d'abord beaucoup de monde à chaque rendez-vous, que ce soit dans les coteaux du Nord, à Garaison par exemple, ou tout près de Tarbes, à Notre-Dame-de-Piétat, ou dans les vallées de montagne, à Notre-Dame-de-Puélaen et Notre-Dame-des-Asses, ou bien évidemment le point d'orgue au sanctuaire de Lourdes pour le pèlerinage diocésain fin octobre. À chaque fois, beaucoup, beaucoup de monde, et y compris des gens qui découvraient ces lieux, ces sanctuaires, et qui ont témoigné d'avoir été heureux de vivre une expérience diocésaine forte, sans oublier bien évidemment notre pèlerinage diocésain à Rome au mois de juin. Et donc, c'est vraiment le souvenir dont je veux garder la mémoire, c'est ce que nous avons vécu en diocèse avec la Vierge Marie pendant cette année jubilaire.
Comment on fait maintenant pour garder l'espérance, puisqu'on parle de la clôture de l'année jubilaire, ça ne veut pas dire que terminer le travail d'espérance. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un travail d'espérance? En tous les cas, comment on fait pour que cette espérance, eh bien, elle continue de croître et de nous lier les uns aux autres? Parce que ce que vous nous dites là, par rapport au rendez-vous diocésain, c'est aussi un petit peu ce travail de communion qui est tissé derrière. Alors, comment on fait pour insuffler l'espérance dans toute cette vie diocésaine?
Déjà nous rappeler ce que nous avons essayé de creuser, d'approfondir tout au long de l'année jubilaire, c'est-à-dire que l'espérance n'est pas d'abord un sentiment qui est conditionné par l'ambiance, par l'air du temps, par le fait que tout va bien, et donc quand tout va bien, on est joyeux et on espère que ça ira encore mieux, mais qu'elle est une vertu liée à la foi et liée à la charité, c'est-à-dire l'objet aussi d'une décision que l'on peut prendre dans la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, dans la grâce de la foi. Et à partir de là, elle est une manière de regarder la vie, de regarder le monde, de regarder les autres, et donc une attitude déterminée que le croyant pose dans sa relation aux autres. Et je pense que une des grâces de l'année jubilaire sera de nous rappeler cela avec beaucoup de force, parce que eh bien, c'est comme cela que l'on peut aussi se souhaiter des vœux sincères, parce que évidemment, les événements inquiétants ne manquent pas, les épreuves ne manquent pas, le jour du Nouvel An, ce qui vient de se passer dans cette discothèque suisse est absolument tragique, évidemment. Et donc, si on est simplement porté par l'air du temps, on se dit, mais enfin, à quoi bon se souhaiter des vœux? À quoi bon formuler une espérance? À quoi bon croire en Dieu et le prier pour lui demander la paix, si de toute façon, ça ne change rien, comme on peut le constater? Eh bien, ce n'est pas le cas. Et la nuit du Nouvel An, lors de la messe que je célèbre chaque année à la grotte très tard le soir pour le passage de la nouvelle année, j'ai évidemment, avec une certaine gravité, mentionné que ben, l'histoire du monde, elle continue son cours, bien évidemment, mais que pourtant, il s'est passé quelque chose. Même si on a l'impression que tout au long de l'année jubilaire, on pose des gestes, on formule des prières, on peut adresser aussi des cris à Dieu qui semble rester sourd à nos prières dans certains cas. Pourtant, dans la foi, nous savons qu'il s'est pourtant passé quelque chose. Et cette attitude d'espérance dont nous devons garder la grâce, et c'est votre question, maintenant que nous sommes revenus dans le temps plus ordinaire, on va dire, le temps liturgique normal, eh bien, quelque chose s'est passé et a été enraciné en nous, et nous devons en garder une mémoire forte pour traverser les jours, les semaines, les mois, les années, avec cette assurance que donne la foi, précisément l'espérance, et aussi la charité qui sera sans doute mise à rude épreuve à travers les échéances. Je pense en particulier aux élections qui approchent. Déjà, il y a quelques tensions dans des communes par chez nous. Eh bien, il faut que les croyants, les chrétiens soient témoins de cette espérance que nous avons creusée et cherchée et approfondie tout au long de l'année jubilaire.
L'espérance chrétienne a vraiment quelque chose à apporter au monde, y compris au monde qui ne connaît pas le Christ.
Absolument, elle est une bonne nouvelle
Oui.
portée par les croyants qui en témoignent de manière convaincante. Et c'est ce que nous devons être et nous aider à être, voilà, fraternellement et dans une grande communion chrétienne et en particulier catholique de différentes sensibilités. Nous sommes en mission auprès de nos frères et sœurs en humanité, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et nous devons nous aider les uns les autres à donner un témoignage convaincant de ce en quoi nous croyons, quelles que soient les circonstances.
Vous mentionnez les élections municipales, Monseigneur Mika. Alors, ça va être un des grands rendez-vous hein, du premier trimestre 2026. Et on va en reparler au cours des semaines qui vont en venir. Ces élections municipales, elles sont importantes parce que d'abord, on parle souvent, et vous avez beaucoup rencontré les élus locaux au cours de vos visites pastorales, et puis vous en rencontrez régulièrement. Mais ces élus locaux qui confient souvent le manque d'engagement, difficile de recruter des gens. Pour constituer une liste, pour s'engager au service d'une municipalité, un espèce de découragement ou d'épuisement, parfois une fatigue aussi, puis peut-être un peu une solitude dont ont témoigné certains élus. Et pourtant, eh bien, on voit aussi dans les villages, dans les quartiers, beaucoup de belles choses, de la vie citoyenne, du vivre ensemble, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé. Pour vous, ce scrutin municipal, il a quel enjeu en fait? Qu'est-ce qu'il représente dans la société, dans la vie?
On pourrait parfois, comme chrétien, être tenté de nous tenir à l'écart de tout cela, estimant que notre centre, notre cœur est ailleurs et qu'on n'a pas, plus que ça en tout cas, à nous mêler des affaires de ce monde, puisque nous sommes orientés vers un autre monde. Et régulièrement, les responsables de l'Église, les évêques, le Saint-Père lui-même, nous invite à corriger cette tentation et à considérer que ben, nous sommes citoyens du ciel et aussi citoyens de la terre, et que nous avons une responsabilité à l'égard de cette terre et que nous devons nous retrousser les manches et assumer nos responsabilités, alors avec les talents qui sont les nôtres, les missions qui sont celles que l'on nous confie, mais nous devons prendre notre part à la vie commune. Et des élections, ben, c'est une manière de participer à la vie commune dans les sociétés modernes, dans les sociétés démocratiques. Et nous devons, comme chrétiens, assumer ce devoir, non seulement un devoir de citoyen, mais un devoir de fidèle du Christ qui prend sa part de la transformation des réalités temporelles, la transformation de l'histoire, pour l'ordonner à ce à quoi l'homme est ordonné, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme pour que ils établissent une communauté humaine fraternelle en communion avec lui-même. Et donc, toutes nos activités doivent être une pièce d'un grand puzzle dont on a, nous, une vision complète.
Pour un élu local, concrètement, les questions auxquelles un élu local a à faire face, ce sont des questions de voirie, de transport scolaire, de sécurité, de trottoirs à refaire, de réseau, d'assainissement. Les chrétiens qui vous écoutent là, via les ondes de Radioprésence doivent se dire, mais en fait, quel est le rapport entre un engagement citoyen voilà, qui va m'emmener à réfléchir sur des questions d'assainissement ou de voirie et mon engagement en tant que chrétien. On est bien loin de la mission quand on parle des questions concrètes auxquelles sont confrontés les élus.
Quand des fiancés se préparent au mariage, on leur explique en long, en large et en travers les grandes affaires qui se jouent dans le sacrement du mariage, comment leur vie s'oriente, etc., etc. Très bien. Mais après ça, ça se traduit au quotidien par le lever des petits le matin, régler les problèmes scolaires dans la journée, réparer la fuite d'eau à la salle de bain dans l'urgence parce que ça inonde de tout partout. Et puis se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir fermé un dossier alors que 10 nouveaux se sont ouverts et qu'on n'a rien réglé. Bon, c'est comme ça. La vie concrète, elle est celle que nous devons assumer au jour le jour. Et pour cela, il faut qu'on s'organise. Et une commune, elle s'organise. Et des citoyens de la dite commune se mettent ensemble pour essayer d'organiser la vie commune et de trouver des compromis entre les intérêts des uns et les intérêts des autres, parfois contradictoires, et essayer de servir une certaine justice et une paix commune dans la vie fraternelle ou aussi fraternelle que possible. Ça s'incarne dans le concret que vous décrivez, mais dans ces petites choses extrêmement préoccupantes et parfois décourageantes, se jouent de grandes choses aussi. Et c'est dans ces petites choses que se jouent les grandes. Et il faut que, enfin, nous, on est à la croisée des deux, quoi. Il faut qu'on soit à la fois extrêmement concret dans notre organisation quotidienne, dans celle de nos vies, dans nos responsabilités, notre travail, voilà. Mais qu'on ait conscience que le petit geste que l'on pose là, il a une portée éternelle et universelle. Enfin, vous voyez qu'il y a un lien entre les deux. Comme sulpicien, membre de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, un de nos anciens supérieurs généraux était célèbre pour une formule: gloire à Dieu, pied sur terre. Gloire à Dieu, pied sur terre. La bonne formule, c'est gloire à Dieu, paix sur la terre. Bon. Mais lui, c'était gloire à Dieu, pied sur terre. C'est-à-dire, il faut tenir les deux, quoi. Avoir les yeux braqués sur l'horizon, et la vertu d'espérance dont on parlait tout à l'heure nous aide à tenir cela. Et en même temps, avoir les pieds sur terre, dans le concret, et assumer nos responsabilités humaines, sociales, sociétales, enfin, etc., d'une manière extrêmement précise, mais en ayant conscience que c'est une pièce d'un puzzle qui nous dépasse, beaucoup plus grand, et dont on a la vision, une vision qui nous fait envie.
Ma dernière question sur ces élections municipales, mais bon, je le disais tout à l'heure, nous en reparlerons dans les semaines à venir, nous aurons l'occasion d'évoquer à nouveau ce sujet-là, mais c'est par rapport aux préparatifs justement, puisque on peut sentir déjà ici ou là des tensions parfois. C'est pas facile de décider de s'engager en disant je me présente aux élections, c'est pas facile de constituer une équipe, c'est pas facile non plus de faire face à l'équipe d'en face qui se présente également. Quelle est votre parole de pasteur, d'évêque, pour appeler un peu à la, j'allais dire, à un dialogue docile, en tous les cas, pour que cette campagne électorale, elle se fasse de manière intelligente et respectueuse.
L'expérience montre que bien souvent, dès que quelqu'un assume des responsabilités, il est la cible de bien des critiques, des reproches, et beaucoup de gens hésitent à devenir cette cible, et donc à s'engager, alors même qu'ils en auraient les talents et le désir. Simplement parce qu'ils ont des difficultés à affronter la méchanceté, l'injustice, la calomnie, la jalousie et toutes autres formes de sentiments qui ne sont pas très, très dignes, ni de l'humanité, encore moins de la part de chrétiens. Mais nous savons que tout cela existe. Alors, il faut peut-être avoir je sais pas, assez d'abnégation, d'humilité aussi pour dépasser cela. Et si on s'estime quelques talents, parce que d'autres nous le manifestent quand même, je crois que ça vaut la peine de, malgré tout, supporter ce risque et s'engager pour le bien commun, parce que c'est aussi notre mission, notre devoir. J'espère ne pas trahir de secret, mais dans un échange récent avec le préfet du département des Hautes-Pyrénées, à propos de la crise agricole, il me disait, après qu'on ait déversé beaucoup, beaucoup de choses désagréables devant les grilles de la préfecture, il me disait, hier, j'ai obtenu, je me bats pour eux, j'ai obtenu une subvention directe significative de près de 1 million d'euros. Mais voilà, c'est ainsi et je continue parce que je sais que c'est ma mission et cela me donne le courage de poursuivre le combat, y compris à leur côté, même s'ils ne le comprennent pas toujours. Et je crois que ceux qui vont s'engager et doivent le faire, s'ils en ont le talent, au service de leurs concitoyens dans le cadre des prochaines élections, doivent le faire en étant prêts à affronter des choses qu'ils estimeront injustes, mais ils doivent le faire quand même parce que c'est leur mission, parce que c'est leur devoir, parce que le service du frère peut l'exiger et que malgré tout, tout n'est pas qu'épreuve, injustice et incompréhension. Il y a aussi une forme de reconnaissance et de gratitude qui n'est pas automatique, mais qui existe. Et puis il y aura de toute façon la gratitude de Dieu le moment venu.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika, pour ces paroles, ces premières paroles, cette première interview de l'année 2026. Pour tous les catholiques du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, rendez-vous ce dimanche 4 janvier à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes pour la clôture de l'année jubilaire à 17h30. Tout le monde est invité, bien sûr, pour cette célébration où nous ne manquerons pas de rendre grâce aussi pour la béatification récente de l'abbé Pascal Vergès.
Merci beaucoup, très très bonne semaine et encore très très bonne année à toutes et tous.
Merci, Monseigneur, à la semaine prochaine.